Bonjour mes bien-aimés, et on va partager la parole de Dieu ensemble. Ce matin, vous vous êtes levé, vous avez pris un petit déjeuner, n'est-ce pas? Quels sont ceux qui ont pris un petit déjeuner? Bon, il y en a certains qui disent, bon, aujourd'hui, je mets à part ce temps, je ne vais pas manger. C'est très bien aussi. Notre corps a besoin de nourriture pour pouvoir exister. Et Jésus a dit que l'homme que nous sommes, l'être humain, lui, en tant qu'homme, il a pris un corps semblable au nôtre, notre Seigneur Jésus-Christ, et il a dit ceci, il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire l'homme qui vit sur la terre, l'homme qui est pris dans l'enveloppe charnelle, il ne vivra pas de pain seulement. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme en trois parties. L'homme est fait en trois parties. Il y a ce corps que nous entretenons, que nous nourrissons, et il y a l'esprit et l'âme. Et notre âme, justement, Jésus s'adresse en disant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et la bouche de Dieu s'est ouverte à travers Jésus-Christ. Quand Jésus ouvrait la bouche, c'était Dieu qui parlait par sa bouche. Les paroles que Jésus, qui sortaient de la bouche du Seigneur Jésus, c'était des paroles divines qui venaient directement de la bouche de Dieu. Et les disciples, la foule qui suivait Jésus, se nourrissaient de ces paroles qui sortaient de la bouche du Seigneur Jésus. Au point que le Seigneur Jésus a été dans une contrée voisine qui s'appelle Tyr, la contrée de Tyr et de Sidon. Et là-bas, il y a une femme qui avait un souci avec sa fille, avec son enfant. Et elle est venue demander du secours à Jésus. Et Jésus lui a fait une réflexion. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Cette femme a répondu avec une foi. Elle a accroché Jésus, elle a dit à Jésus, « Oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. » C'est-à-dire, cette femme avait compris que les paroles qui sortaient de la bouche du Seigneur Jésus, de Jésus, étaient très importantes pour elle. Exactement comme Marie, qui a tout mis de côté pour se tenir où ? Aux pieds du Seigneur Jésus. Elle a tout mis de côté. Elle a dit, pour moi, Jésus, c'est l'homme le plus important, je mets tout de côté. Ça vous est déjà arrivé de mettre tout de côté? Vous êtes en train de faire la vaisselle, le ménage, et d'un coup, l'Esprit de Dieu tombe sur vous, vous laissez tout, le balai, tout, et vous allez vous renfermer dans la chambre. Ça vous est jamais arrivé? Vous savez, au début de notre conversion, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Mais au fur et à mesure des temps, plus le temps passe, il s'avère que Saint-Esprit parle à nos cœurs. On dit, oui, je vais y aller. Parce qu'on est tellement, on est maniaque. On est comme ça. Il faut que je termine. Et on le dit, on le pense, on le dit pas, mais on le pense dans notre cœur. Et pourtant, l'Esprit de Dieu nous dit, va, retire-toi. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te pousser à prier pour quelqu'un qui, en ce moment même, est dans un besoin. Elle est prête à basculer. Va te mettre dans ta chambre et prie. Et là, le temps passe. On continue à astiquer. Et au moment où on dit, je vais y aller, trop tard. À ce moment-là, on y va, mais voilà, c'est comme si on ne sent plus, il n'y a plus rien qui se passe. Pourquoi? Parce que quand c'est le temps de Dieu, quand le Saint-Esprit nous pousse à faire quelque chose, faisons-le, mes bien-aimés. Mettons tout de côté, même si ce que nous faisons est important, mettons-le de côté. Même la personne avec laquelle on est en train de discuter, mettons cette personne de côté, excusez-vous auprès d'elle en disant excusez-moi, je dois me retirer, je dois aller faire un besoin pressant. La prière. Vous vous retirez, vous vous mettez dans la chambre, vous fermez la porte, et là, vous laissez le Saint-Esprit vous inspirer la prière qu'il voulait vous inspirer. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, en priant ainsi, en agissant ainsi, en obéissant ainsi, vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec la prière que vous faites monter devant lui. Dieu utilisera votre prière pour aller secourir le frère ou la sœur ou la personne qui est en train de basculer. Seigneur, la secours, le secours. Et cette personne, sans même que vous vous rendiez compte, arrive comme ça, vous demandez « alors ça va ?» Et la personne, le bien-aimé ou la bien-aimée, ouvre son cœur en disant « ah, si tu savais, je suis passé par un chemin la semaine là, c'était terrible. » Et là, tout de suite, le Saint-Esprit vous rappelle en disant tu vois, je t'ai fait prier pour elle, pour lui, c'était pour ça. » Frères et sœurs, cette sensibilité à l'Esprit de Dieu, à la voix de Dieu, beaucoup l'ont perdue. Au point que Jésus, l'église de Laodicée, il était obligé de frapper. Normalement, la porte devait être grande ouverte pour lui. Si c'est Jésus, pas besoin de frapper pour entrer. Mais là, il est obligé d'utiliser, de prendre des précautions pour rentrer dans son église. Il dit ceci, je me tiens à la porte et je frappe. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire qu'à ce moment-là, les chrétiens étaient préoccupés à quoi ? Je suis riche, je n'ai besoin de rien. C'est-à-dire, on était dans une sorte d'autosatisfaction. On était renfermé sur nous-mêmes. On était hermétique à ce qui se passait à l'extérieur. Et pourtant, Dieu veut que l'Église soit le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Nous devons éclairer. On ne prend pas une Église. L'Église ne se renferme pas sur elle-même. Elle ne vit pas en autarcie. Elle vit pour briller, pour que la lumière se répande et que les autres disent « Tiens, il y a de la lumière là-bas, je vais rentrer. » Quand vous êtes à la montagne ou à la campagne et vous êtes tombé en panne en pleine campagne, je peux vous assurer, vous regardez de loin où c'est que vous voyez une petite lumière, une ferme là qui a une petite lumière, et vous allez dans la direction de la ferme. Oui ou non ? Parce que vous avez besoin de lumière et de secours. Et vous frappez « Madame ?» Oui, qui c'est ? Je suis tombé en panne et j'ai besoin de passer un coup de fil pour qu'on vienne me dépanner en pleine nuit et il fait froid. Vous savez, l'Église, aujourd'hui, l'Église, elle est lumière pour éclairer le monde qui est dans les ténèbres. Amen. L'Église, elle est sel pour donner du goût à ceux qui n'ont plus goût à la vie et qui se suicident et qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, et que l'adversaire tourmente jour et nuit. L'Église est celle pour donner du goût, redonner goût aux gens qui ont faim et soif de justice. C'est ça la mission de l'Église. La mission première de l'Église, c'est d'éclairer. Et c'est donner du goût. C'est-à-dire, l'Église fait obstacle à tout ce qui est corruption. Et l'Église, c'est la seule force au monde qui peut lutter contre Satan. Rien d'autre. Ce n'est pas les intellectuels, les technocrates. Ce ne sont pas la puissance financière qui peut lutter contre Satan. L'Église, c'est la force ici-bas qui lutte contre la puissance de Satan. C'est elle qui fait barrage. Et si l'Église de Christ, on ne réalise pas, on n'est pas conscient de qui nous sommes, on n'est pas conscient du pouvoir que Dieu, que Jésus nous a donné, eh bien nous vivrons un peu comme des gens qui sont là. C'est comme les fils des riches. C'est-à-dire, il y a des enfants dont les parents sont milliardaires, mais ils vivent comme des clochards. Parce qu'ils n'ont pas conscience de la richesse qu'ils ont. Eh bien, nous, que Dieu nous donne d'en être conscients ce matin. De qui nous sommes, quelle est la fonction de l'Église, quel est le pouvoir que nous avons. Pouvoir de changer la donne, parce que nous habitons dans un pays qui s'appelle la France. Et normalement, le bien-être de ce pays dépend de nous, les chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Je ne l'invente pas, c'est écrit. Le bien-être de ce pays dépend de nous, les chrétiens. C'est pour ça que l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, Jésus le pousse à écrire ceci. Je veux. Il nous exhorte de prier pour tous les hommes, ceux qui sont élevés en dignité. Pour quelle raison ? Pour que nous ayons cette liberté que nous avons ce matin, cet après-midi, demain après-midi, mardi, et puis ici, il y en a encore d'autres. cette liberté de nous rassembler. Demain, on nous prive de cela, nous allons avoir un gros problème dans la manifestation de l'amour les uns pour les autres. On aura un gros problème. Et l'apôtre Paul, serviteur de Dieu, incitait, son désir, c'était de pousser les chrétiens, en particulier les chrétiens de Philippe, les Philippiens, il les poussait, il les exhortait à s'aimer les uns les autres. Il passait son temps à exhorter les chrétiens à ça. Et de la même façon que Jésus a lavé les pieds des disciples dans Jean 13, de la même façon, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, le pousse à venir faire le même travail, par l'amour justement, entre un problème qu'il y avait entre deux sœurs. Dans les églises, il y a des conflits sœurs et sœurs, frères et frères, frères et sœurs, sœurs et frères. Vous m'avez compris ? Et là, il y avait un gros problème dans l'église de Philippe. Deux sœurs qui avaient travaillé avec l'apôtre Paul, Évodie et Saint-Iche. Deux sœurs de l'église, et à cause du problème qu'elles avaient entre elles, elles ne s'entendaient pas, c'est monté aux oreilles de l'apôtre Paul qui était enfermé dans une prison. L'apôtre Paul a su qu'il y avait un problème entre deux sœurs, c'est pour ça qu'il faut régler les problèmes. S'il y a un problème entre deux sœurs, un frère, ou peu importe, régler les choses. Le serviteur de Dieu, que fait-il ? Il écrit et il transmet le courrier à l'église de Philippe et il dit à ses sœurs, mes sœurs, et j'ai constaté rare dans l'écriture, le peu que je sais, que Dieu permet que je sache, c'est la première fois que l'apôtre Paul cite le nom des personnes qui ne s'entendaient pas. Évodie et Saint-Iche. Il nous donne précisément le nom de ces deux sœurs. Et il les exhorte à rester en communion parce que rester dans l'amour, de demeurer dans l'amour, de garder cette communion parce que les gens autour de nous nous regardent. Vous savez, l'Église, le monde nous observe. Nos voisins nous observent. Nos amis nous observent. Et ils regardent si vraiment ce que nous disons, nous le mettons en pratique. Et l'apôtre exhortait, tout en étant en prison, il exhortait, et je crois particulièrement, il écrit son épître aux Philippiens, justement parce qu'il y avait ce problème dans l'Église. Un problème qui pouvait exploser, diviser l'Église, tout de suite, tout en étant en prison, le Saint-Esprit le pousse à écrire cet épître, et il encourage les deux sœurs, à rester unis et à mettre de côté les dissensions, mais de rester unis dans l'amour. Mes frères et mes sœurs, nous devons mettre de côté tout ce qui peut nous emmener à être divisés les uns des autres et à donner, à travailler à l'amour, à donner priorité à l'amour dans notre cœur et à laisser le Saint-Esprit nous renouveler dans l'amour jour après jour les uns pour les autres. Amen. Vous savez, si je vous aime, je ne verrai pas le défaut chez vous. Parce que la Bible dit que l'amour recouvre une multitude de fautes, de péchés. Quand on aime, on ne voit pas le mal chez l'autre. C'est pas qu'on ferme les yeux, on sait qu'il y a un problème, mais on n'est pas là à toujours mettre le doigt dessus en disant « Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Non! Dieu dit, tu montres du doigt ton frère, ta sœur, mais tu vois pas chez toi. Tu vois pas la poutre qu'il y a dans tes yeux. Tu vois la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère. Mais tu vois pas le morceau de bois qu'il y a dans tes yeux. Tu réalises même pas, tu as une poutre dans les yeux. Et tu vois la paille, le défaut, le détail qu'il y a dans la vie de ton frère et de ta sœur. Aime-la! Aime-le! Et arrête de le juger! Arrête de le montrer du doigt. Donne-lui de l'amour, c'est ce dont il a besoin. Et tu verras qu'il sortira la tête de l'eau et il va poursuivre sa marche pour aller avec Jésus dans le ciel. Amen. Alors, prenez avec moi. Je suis déjà dans la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs. Il est quelle heure? 11 heures. C'est l'heure de nous réveiller. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Romains, chapitre 13. Pourquoi c'est l'heure de nous réveiller? Parce que nous sommes rentrés dans la dernière heure. Nous avons basculé dans la dernière heure. C'est-à-dire, au moment où l'apôtre Paul écrivait cet épître aux Romains, il le dit, et les temps ont passé, le temps a passé, et aujourd'hui, au 21e siècle, nous pouvons dire que nous sommes dans la dernière heure. Nous avons basculé dans la dernière heure. Quelle est cette heure? C'est pas 11 heures jusqu'à midi, c'est pas cette heure-là. Là, c'est humain. Mais je vous parle de l'heure de Dieu, l'heure divine. Et tous aujourd'hui, ce matin, nous devons mettre nos montres à l'heure divine. Si à l'heure de Dieu, il est midi moins 5, nous devons régler nos montres à midi moins 5. Si nous le mettons à midi moins le quart, 45, nous allons louper le retour de Jésus. Mais si nous mettons nos montres à l'heure de Dieu, eh bien, nous n'allons pas louper ce merveilleux jour qui est le jour où Jésus reviendra chercher son Église. Et la Bible dit, nous avons basculé dans la dernière heure. Je lis ceci avec vous, ce texte de la parole de Dieu. Le verset 8 de Romains chapitre 13, nous lisons pour fermer la boucle par rapport à ce que je viens de dire. Je parlais d'amour. Il dit, ne devez rien à personne. Est-ce que tu me dois quelque chose, mon frère, ma sœur? Humainement parlant, je t'ai emprunté quelque chose. La Bible me dit, je dois rien te devoir. Et si tu me dois quelque chose, tu dois veiller à honorer ta parole. Si tu as emprunté, tu as fait un emprunt pour acheter je ne sais quoi, et qu'aujourd'hui tu te retrouves à ne pas pouvoir payer, honorer tes factures, crie vers Dieu. Parce que si Dieu a été au début, c'est-à-dire s'il a été ton conseiller, s'il a été celui qui t'a dit « oui, vas-y, je t'accompagnerai », eh bien, ne t'inquiète pas, il pourvoira à tes besoins. Je ne sais pas comment, mais à lui appartient l'or et l'argent, il pourvoira. Ça, c'est pas mon problème à savoir comment il va faire. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais si ce n'est pas lui qui t'a dit « engage-toi pour acheter ou emprunter quoi que ce soit », aujourd'hui, si tu es dans le besoin, si tu es juste, comme on dit, vraiment que sa grâce, que son secours soit ton partage, mais à une condition, c'est que tu reviennes vers lui, tu te mets à ses pieds, tu dis « Seigneur, pardonne-moi. J'ai agi sans te consulter et c'est pour cela aujourd'hui je me retrouve dans de telles situations. Mais s'il te plaît, fais-moi grâce. » Et le Seigneur qui a un Père qui est bon, je n'ai pas vu le Père du Fils prodigue voyant le Fils revenir en disant « Je ne te connais plus, tu sens mauvais, tu n'es pas rasé, tu es sale, tu es crasseux, je ne veux pas... » Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu le Fils arriver de loin, il a couru. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris dans ses bras. Voilà ce que Dieu fait quand un de ses enfants reconnaît qu'il s'est trompé et qu'il revient, s'humilie, Dieu le prend dans ses bras. Et à nouveau, cet enfant se sent rassuré. Il dit « Ah, je pensais que tu m'en voulais. » Dieu dit « Oui, je pouvais t'en vouloir, mais moi je suis un Dieu qui est rempli d'amour, qui est lent à la colère et riche en bonté. Alors maintenant, je vais te secourir. » Et Dieu va débloquer. Il va même disposer le cœur de tes ennemis en ta faveur. Amen. Gloire à Dieu. Il dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous. Voilà ce que vous me devez. » Et voilà ce que je vous dois, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est de vous regarder dans les yeux sans arrière-pensée et de vous dire que je vous aime. Et la même chose, vous, vis-à-vis de nous. je ne vous dois rien, vous ne me devez rien matériellement parlant, mais je vous dois de vous aimer. Mais vous aussi, vous devez nous aimer. C'est notre vie sur terre, je vous en parlais tout à l'heure, et je referme cette parenthèse. Il dit « Car celui qui aime les autres a accompli la loi ». Vous dites « Amen ». Nous basculons dans le verset 11 qui nous concerne et que sur lequel je veux partager avec vous quelques minutes. Il dit ceci, « Cela importe ce qui précède avant. » Nous avons lu le verset 8, on aurait pu aller jusqu'au verset 10, mais je pense que vous êtes en train de le lire. Mais le verset 11, il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Est-ce que vous savez en quel temps nous sommes? Quel est le temps en ce moment? C'est pas parce que il y a le Covid-19 que on dit Jésus revient. Il y a ceux qui pensent qui voilà là, on a basculé dans, il y a un terme que tu savais, les gens ils partent dans un délire en disant oui, complotistes, toutes ces choses là. Non, ça c'est rien encore. C'est rien. Ce que nous vivons, c'est rien à côté de ce qui va venir. Au point que la Bible dit, Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? C'est-à-dire, il y aura une telle oppression, le monde sera tellement dans l'épreuve que même les chrétiens, s'ils ne sont pas accrochés aux saintes écritures, à la parole de Dieu, ce n'est pas le jour où on dit il y a une tempête qui arrive, qu'il faut commencer à calfeutrer votre maison. C'est 2-3 jours avant, si vous êtes des êtres humains prévoyants. Ce n'est pas le jour où le cyclone va arriver que vous commencez à barricader votre maison. C'est le jour, la veille. Dieu nous avertit de ce qui va venir. Et c'est maintenant qu'il faut nous réveiller, nous préparer à cela. Vous dites amen. On est samedi matin, je crois que vous êtes réveillés. Je n'attends pas à ce que vous vous levez, vous poussez des cris, ce n'est pas l'excitation que je cherche. Mais je souhaite vraiment que vous... Je sais que vous êtes attentifs, hein, je le sais ça. Voilà. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous le savez en quel temps nous sommes? Certains chrétiens ne le savent pas. Ils disent, bon, j'ai le temps. On a le temps. Nous n'avons plus le temps, mes bien-aimés. Ce temps que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est un temps de préparation pour les jours mauvais qui arriveront pire que ce que nous vivons aujourd'hui sur la terre. Dieu veut nous débarrasser de toute forme de négligence, de paresse, de nonchalance. Dieu veut nous redonner un zèle, merci, de toute forme de relâchement. Dieu veut nous redonner ce zèle pour que nous puissions travailler à notre salut. Vous savez que Noé, quand Dieu lui a parlé, la Bible dit que Noé, sans voir les choses, il s'est mis au travail. Parce que son cœur a été saisi. Il a pris au sérieux ce que Dieu lui disait. Et Dieu lui a parlé à une époque où tout était merveilleux. Les gens mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils se mariaient. Il y avait du commerce. Les gens vivaient comme aujourd'hui. Et peut-être que les gens sont peut-être plus sensibles aujourd'hui qu'à l'époque de Noé. Parce que quand l'épreuve est là, les gens se tournent vers Dieu. Ils disent, je vais aller à l'église, je vais aller trouver le pasteur, le curé, je vais aller allumer une cierge, une bougie là. Eh ben, les gens se tournent quand ils sentent que ça ne va pas autour d'eux. Mais du temps de Noé, la Bible dit que les gens mangeaient, ils vivaient leur vie. Mais Noé, il aurait pu dire, oui c'est vrai, tu me parles, mais je vois que tout va bien. Je le ferai plus tard. Non, il a été saisi instantanément. Quand Dieu lui a parlé, son cœur a été saisi d'une crainte. Et cette crainte a été accompagnée d'un grand respect. Parce que vous savez, Dieu nous parle et Dieu voit dans quel état de cœur que nous recevons sa parole. Nous pouvons la recevoir, mais nous pouvons l'oublier 5 minutes après. Ça veut dire qu'on n'a aucun respect pour lui, qu'on oublie sa parole 5 minutes après. Mais quand il nous parle et qu'on sort et qu'on laisse le Saint-Esprit travailler notre cœur et que cette parole revient dans la semaine, dans les jours futurs, ça veut dire qu'on est respectueux à l'égard de la parole que Dieu nous a dit. Et Noé, le respect qu'il a eu pour Dieu, l'a poussé à faire quoi ? À construire cette arche. Il a travaillé jour après jour à quoi ? À son salut. Parce que l'arche était l'instrument que Dieu lui avait dit, détaillé, détail, point par point. Il a respecté scrupuleusement tout ce que Dieu lui avait dit. Eh bien, cette arche a été utile pour sauver lui et sa famille, c'est-à-dire 8 personnes en tout. Et ces gens-là, Noé vivait à une époque où les gens, la terre était peuplée de gens, comme aujourd'hui. Le seul qui a été attentif à la voix de Dieu, mais qui a cru Dieu. Bien souvent, Dieu nous parle, mais on ne le croit pas. Il nous avertit, on ne fait pas attention. Et s'il nous dit que nous sommes dans la dernière heure, c'est que Dieu sait très bien ce qu'il dit. Oui ou non ? C'est que derrière cet avertissement, il veut réveiller à nouveau notre conscience. Il veut nous interpeller. Il veut nous dire, hey, mes enfants, réveillez-vous. C'est l'heure de nous réveiller, de sortir du sommeil qui nous a tellement enveloppés. Je ne parle pas du sommeil physique, sommeil spirituel. Nous avons perdu cette hardiesse, cet enthousiasme, cet amour, ce zèle pour le servir. Et comme je le disais, il nous parle, on ne fait même plus attention. Il est là, on ne fait même plus attention à sa présence. Quand il nous dit, laisse tomber ça, va te mettre en prière, on dit, attends. On dit à Dieu, à Jésus d'attendre, mes amis. Normalement, ce n'est pas lui qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui, oui ou non ? Mais c'est un honneur qu'il nous fait de se servir de nous. C'est une grâce qu'il nous fait de se pencher sur nous en disant « Je vais me servir de toi, Christophe, et de toi, ma sœur, mon frère. » Dieu nous honore de nous faire participer à son œuvre. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Je l'espère, mes bien-aimés, que vous savez en quel temps nous sommes. Quand il fait nuit, vous savez qu'il fait nuit. Quand l'été approche, qu'est-ce qui vous prouve que l'été approche ? Il y a quelque chose en particulier qui vous réveille la conscience, c'est quoi ? C'est que vous voyez les arbres, vous voyez la sève remonter dans les branches. En hiver, en ce moment, la sève, elle est descendue dans les racines, elle est blottie, elle ne bouge pas, la vie est là. Mais on a l'impression que l'arbre est mort, mais la vie est là. Il suffit qu'il y ait, le printemps arrive, à nouveau, la sève commence à parcourir les racines et à nouveau à se propager dans les branches et les feuilles, les bourgeons commencent à sortir. On dit, ah, les oiseaux chantent, les abeilles butinent, il y a des choses qui nous disent, tiens, c'est l'été qui approche. Eh bien, est-ce que vous arrivez, mes bien-aimés frères et sœurs, à discerner en quel temps nous sommes ? Est-ce que nous sommes dans l'hiver spirituel ou sommes-nous dans le printemps spirituel ? Nous avons passé le printemps, l'été, c'est pour ça que je vous disais, nous avons basculé dans la dernière heure. Et dans cette dernière heure, la Bible dit, Jésus dit une parole, il dit, la nuit vient. Ça y est. Sommes-nous dans cette nuit dont Jésus parle ? La nuit vient où personne ne peut. L'activité, c'est comme la fourmi. La parole de Dieu nous dit que c'est pendant l'été que la fourmi travaille. pendant que les autres se prélassent au soleil, pendant l'été, la fourmi engrange. Son activité, la majeure partie de son activité, c'est pendant l'été. Et nous, les enfants de Dieu, si nous avons loupé l'été, si nous avons omis de faire des provisions pour l'hiver qui arrive, nous rentrons dans la dernière heure où ce n'est plus ça. On ne pourra pas travailler comme on le faisait, comme en été. On ne pourra plus le faire. Au moment où le Seigneur nous parle, nous a parlé, quand on était en pleine ouverture, on recevait, on était sensible, ce temps-là, je ne sais pas si aujourd'hui, si Dieu nous parle, certains sont encore aussi sensibles, comme je le disais au début. Parce que beaucoup de choses sont venues se mettre, des couches sont venues se mettre sur cette sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Mais je reviens sur l'été. Il est parlé de la fourmi qui, pendant l'été, engrange, amasse, fait des provisions. Parce que la fourmi, aussi petite qu'elle soit, Dieu a doté à ce minuscule insecte une sagesse qui normalement devait être chez nous. Je dis normalement, parce que bien souvent, en tant qu'humain, je le disais, quand Dieu nous parle, on est insensible. Mais normalement, il y a l'instinct, la fourmi a quelque chose qui est instinctif. C'est que quand elle voit l'été s'approcher, elle sent la chaleur, elle se met au travail. Est-ce que nous nous sommes mis au travail? Ou est-ce que nous subissons les choses, changement de climat, spirituellement parlant, et que nous les subissons comme ça? Normalement, mes frères et mes sœurs, quand l'Écriture dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Sommes-nous dans l'été, spirituellement parlant? Je ne pense pas que nous le sommes. Nous sommes dans l'été. Je pense que nous sommes en train tout doucement de basculer dans cette dernière heure et dans cette période où on ne pourra plus travailler. Ce que nous avons fait avant, nous sommes en train tout doucement de basculer dans une nouvelle ère où on ne pourra plus faire, on n'aura plus cette liberté qu'on avait autrefois. Vous êtes là ou pas? Nous n'aurons plus cette liberté-là. Parce que plus nous avançons vers le retour de Jésus, plus le chemin devient étroit. Plus on aura du mal à se retrouver à marcher à 10, 15, 20, 30 sur ce chemin-là. Plus on va avancer, plus le chemin va devenir étroit et plus le chemin va devenir comme un sentier. Ça sera un par un. Ça veut dire que le monde va nous priver au fur et à mesure du retour de Jésus, Jésus revient, le monde va nous priver de ça, de la communion fraternelle. Le monde va nous priver de nous retrouver ensemble. Mais tout ce qui est fait, l'adversaire pousse le monde à faire quoi? À isoler les chrétiens. À ce que nous vivons, nous sommes en communion, mais à distance. Je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, mais de loin. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Est-ce que je me suis bien fait comprendre par rapport au temps? Je poursuis. C'est l'heure. Est-ce que vous savez, est-ce que nous savons dans quel temps nous sommes, dit l'apôtre. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller. Il s'adresse à des chrétiens bizarres, des enfants de Dieu qui dorment. Est-ce que vous vous souvenez, Pierre, Jacques et Jean, Jésus était à Gethsémané, dans ce jardin, la nuit. Il s'était retiré pour prier, pour parler à son père. Vous vous souvenez quand il a dit, « Père, si cela était possible d'éloigner cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » À trois reprises, ça s'est produit. Et il a pris avec lui les 12, bien sûr. D'accord? Judas n'était pas présent. Judas était en train de trafiquer avec les hommes religieux pour venir arrêter Jésus. Mais Jésus est parti avec les 11 et les onze, il a pris Pierre, Jacques et Jean, il s'est éloigné avec eux. Il a dit, restez ici, moi je vais m'éloigner quelques mètres et je vais prier. Il est parti, quand il a fini de prier, il revient, il les trouve comment ? Éveillés ou endormis ? Endormis. Voilà. Il les a retrouvés en train de dormir, mes frères et mes sœurs. Jésus, à ce moment-là, avait besoin d'un soutien à travers ses disciples. Il ne l'a pas trouvé. Il leur a dit, vous n'avez pu veiller, vous n'avez même pas pu veiller une heure. Une heure, c'est quoi ? Quand tu passes une heure à nettoyer, quand tu passes une heure devant la télé, quand tu passes une heure au téléphone, cette heure-là, tu peux le consacrer à Dieu. Jésus reproche pour les piquets, vous n'avez pu veiller, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Et c'est un ange de Dieu qui est venu fortifier le Seigneur. Je reviens à cette pensée. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin ! De quoi ? Du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque... Voilà la raison qu'il faut... Pourquoi Dieu nous dit « réveillons-nous ». Parce qu'il y a quelque chose qui s'est approché de nous. Je vous disais, chaque pas que nous faisons vers pour aller vers dans les temps, c'est un pas qui nous rapproche de Jésus. Et là, plus on se rapproche de lui, plus il se rapproche de nous. C'est nous qui donnons, qui incitons Jésus. C'est l'Église qui dit, viens Jésus, Maranatha, viens Jésus, viens bientôt. Et si l'Église est endormie, comment peut-elle dire à Jésus, viens ? Quelqu'un qui dort peut parler. Mais vous allez dire, tiens, tu as parlé cette nuit. Ah bon, qu'est-ce que j'ai dit ? Ben, tu as dit ça, tu étais en pleine discussion, mais tu dormais. Mais l'Église, normalement, elle doit être éveillée. Et quelqu'un qui est éveillé, c'est quelqu'un qui parle, qui dit « Jésus vient », qui travaille pour hâter le retour du Seigneur Jésus. Eh bien, nous devons rester éveillés, nous devons nous réveiller, nous devons combattre toute forme de sommeil spirituel, nous devons lutter, nous devons nous secouer, nous devons nous réveiller. Parce que si le Seigneur le dit, c'est qu'il sait qu'au sein de son peuple, il y a certains qui ont été saisis du sommeil. Un sommeil qui peut les emmener à louper le retour de Jésus. Parce que quelqu'un qui dort ne peut pas, à moins qu'il soit ou qu'elle soit somnambule, ne peut pas être lucide pour aller à la rencontre d'une autre personne. Jésus... Encore un autre exemple. Il est parti sur la montagne de la Transfiguration. Qui l'a pris avec lui ? Pierre, Jacques et Jean, toujours les mêmes. Et ces trois disciples ont failli louper un événement, c'est-à-dire, il y avait qui sur la montagne ? Il y avait Moïse et Élie. Il y avait une nuée qui recouvrait ce lieu, cette montagne, et dans la nuée, Moïse et Élie s'entretenaient avec Jésus. Et les disciples ont failli louper, parce qu'ils étaient là encore. Le sommeil était en train de les travailler. Quelque chose de surnaturel, mais de bien réel, se passait sous leurs yeux. Et ils ont failli louper ce moment. Oh, que Dieu nous secoure ce matin, qu'il nous aide à sortir de notre torpeur, du sommeil, de toute forme de relâchement. Et il dit, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut s'est approché de nous qu'au début, quand nous avons dit oui à Jésus, la Bible nous dit que le salut s'est approché plus près de nous. Et c'est vrai. Nous sommes tout doucement en train de basculer dans cette dernière heure. Et il dit, je regarde mes notes parce que j'ai noté certaines choses. Nous basculons dans la dernière heure. Pour compléter ce texte, est-ce que vous pouvez avec moi aller dans 1 Jean, s'il vous plaît ? 1 Jean, chapitre 2. Voilà, c'est bien. J'ai bien pris note, j'ai essayé de faire bien hein, pour que vous puissiez me comprendre. Ça va, on se comprend hein? Ça va? D'accord. Pourquoi il faut se réveiller? L'apôtre Jean nous le dit. Il nous dit, au verset 18, « Petits enfants, c'est quoi? C'est la dernière. Ce n'est pas 3-4 heures, non, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist, voilà qui va apparaître bientôt sur la scène du monde, parce que ce qui est en train de se passer, vous constatez, il y a un discours qui est dit ceci un jour, le lendemain un autre discours, c'est que il y a une situation de trouble. Que Dieu bénisse ceux qui nous gouvernent, leur donne la sagesse pour bien gérer tout ce qui se passe. Je suis pas là à les critiquer, Dieu m'a pas appelé à ça, mais à prier pour eux. Mais il y a quelque chose, c'est que le monde est dans le trouble et justement, il faut que, chrétiens que nous sommes, nous soyons conscients que ce qui est en train de se passer, ce qui se passera encore, ça prépare justement cette personne, l'Antichrist, qui va apparaître sur la scène mondiale et qui va se connecter à toute la terre. Et qu'il dira, j'ai la solution à vos problèmes. Alors si quelqu'un se réveille comme ça en disant, j'ai la solution pour que tout le monde soit guéri, que le Covid-19 ne nous atteigne pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas vers lui? Vous irez vers lui, non? Eh bien, cette personne, l'Antichrist. Quand il va apparaître sur la scène du monde, il amènera là où les solutions. Et la Bible nous dit au point même de séduire même les élus. C'est-à-dire ceux, les chrétiens qui sont papillons, qui n'ont pas de racines, qui ne sont pas attachés aux saintes écritures, mais qui courent après les miracles, après les choses qui frappent les regards extraordinaires. Ah, je cours par-ci, je cours par-là. Ils seront emmenés, ils seront emportés par ce vent-là. Mais ceux qui restent attachés, qui ne suivent pas Jésus parce que Jésus fait des miracles, ils suivent Jésus parce qu'ils l'aiment, parce qu'il est le Fils de Dieu. Eh bien, cet homme-là, la Bible nous dit, il dit, vous avez appris qu'un antéchrist, un antichrist vient. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Informez-vous, ouvrez les oreilles, les yeux, soyez réveillés, écoutez ce qui se fait, ce qui se dit. Bientôt, beaucoup se diront, tiens, je suis Jésus. Ils se prendront pour Jésus. Ils vont se déclarer, ils vont usurper l'identité de Jésus pour se faire passer pour lui. Pourquoi? Parce que nous basculons dans cette dernière heure. Et dans cette dernière heure, justement, dans cette heure-là, beaucoup vont éclore, c'est-à-dire il y aura des antichrists, des faux prophètes, des hommes comme ça qui vont se lever, qui vont se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Alors, l'apôtre Jean le dit, il dit bien, par là, nous connaissons que c'est la dernière. C'est-à-dire, c'est un signe qui nous fait comprendre que nous sommes dans... Ça veut dire, pour pouvoir discerner cette dernière heure, il faut que nous soyons attentifs et que nous ne sommes pas en train de dormir. Vous comprenez? Si nous sommes éveillés, nous pourrons dire, tiens, la parole de Dieu me disait que nous sommes dans la dernière heure et dans cette dernière heure se manifeste l'antichrist, les faux prophètes. Ils sont sortis du milieu de nous. mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. S'ils étaient de nôtres, ils auraient demeuré avec nous, mais surtout demeuré dans la parole de Dieu. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous voyez, ça nous laisse entendre que ces personnes, ces gens qui se disent être de Christ, mais en réalité, ils auront le nom de Jésus dans la bouche. Ils parleront de Jésus, mais en réalité, c'est dans un but pour séduire beaucoup d'élus, si cela était possible. Et je poursuis. Ne vivons pas comme si nous avions encore 3 heures devant nous. L'Écriture dit c'est la dernière heure. La Bible dit c'est la dernière heure parce que c'est la dernière heure. Dieu nous appelle à nous réveiller. Réveiller. Et je prends avec vous Proverbe chapitre 15. Ça sera l'une des derniers textes que je vais. Chapitre 15, c'est bien ça. Nous devons combattre quoi pour rester éveillé? Dites-le-moi. Le sommeil, mais aussi nous allons découvrir autre chose que nous devons combattre. Proverbe chapitre 15 et au verset 19. Le chemin du paresseux, la paresse, c'est quelque chose que nous devons combattre. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Toujours dans Proverbe 24, nous tournons la page. Proverbe 24, et là, et à partir du verset 27, vous avez trouvé? Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état. Puis, tu bâtiras ta maison. Vous voyez comment Dieu, c'est chronologique, du moins c'est dans l'ordre. Tu soignes tes affaires en dehors, tu mets ton champ en état, et puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas de légère. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain, pardon. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. La paresse fait quelque chose, la paresse emmène de la négligence laisse pousser à nouveau des ronces et des épines dans notre cœur, et ça nous étouffe, ça peut étouffer la communion que nous pouvons avoir avec Dieu. Alors je reprends, la paresse, la négligence, cela produit des ronces. Quand ces choses sont réunies, ça amène à ce que notre cœur, qui était si nettoyé par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus, à nouveau devient une terre où repoussent les ronces, les épines, au point que Dieu interpelle Jérémie, chapitre 4, je crois, il lui dit « Défrichez-vous un champ nouveau ». Et il dit « Circoncisez votre cœur. Et vous savez que je réfléchissais sur cela, je me disais, tiens, circoncis. Les juifs, les garçons juifs étaient circoncis, c'est bien ça. Hein, on leur coupait le prépuce. Et le prépuce, c'est cette peau qui recouvrait quelque part. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Soyez bien attentifs. Hein, j'essaie de trouver les mots justes pour que ça puisse rester dans la pureté, dans la propreté. Le prépuce, c'est cette peau qui recouvrait. C'était coupé. Ça veut dire que Dieu, je réfléchissais, c'est ce qui m'est venu, je vous le partage. Je réfléchissais, je disais, mais Seigneur, pourquoi couper ce morceau de peau? Et en liaison avec ce que je partage avec vous, les ronces qui à nouveau repoussent dans le cœur, c'est-à-dire la médisance, toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses, ces ronces, ces épines qui repoussent, quand on néglige, quand on est paresseux, eh bien, je me disais que le cœur, Dieu ne veut pas qu'il y ait cette couche, cette peau ou cette croûte qui revienne à nouveau recouvrir notre cœur. Mais il veut que le cœur soit vraiment sensible. C'est pour ça que je parlais de tout à l'heure, quand on fait un travail à la maison, le Saint-Esprit, cette sensibilité-là. Dieu veut à nouveau que notre cœur redevienne sensible. Qu'il n'y ait pas de couche, qu'il n'y ait pas de peau qui vienne couvrir et que quand Dieu nous parle, on est insensible. C'est pour cela que je me suis dit, d'accord, Dieu voulait que le prépuce des garçons juifs soit coupé. Circoncision du cœur, que le cœur reste sensible. Et voilà, il dit ceci, il dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux, il avait un champ ce monsieur, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Le paresseux, un homme dépourvu de sens, voilà les épines qui apparaissent, à cause de la négligence et de la paresse. Et il dit, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. Vous vous rendez compte? Ça nous laisse, vous savez, un champ, le champ c'est notre cœur. Et le Saint-Esprit, quand il est venu habiter notre cœur, c'est parce que en écoutant l'Évangile, cette parole a bousculé, cette parole a été comme une tempête qui a remué la terre de notre cœur. Et ça a bouleversé notre vie et on a donné notre vie à Christ, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le temps, si nous laissons la paresse, la négligence s'installer dans notre vie, à nouveau, nous redevenons insensibles à l'Esprit de Dieu. Nous ferons les choses, nous serons négligents, et sans même que nous nous rendions compte, parce que cet homme paresseux est dépourvu de sens, tout de suite, vous savez, hein, regardez, hein, il n'est pas dit des années, non. Tout de suite, les épines y croissaient, partout. Un envahissement, c'est-à-dire le cœur a été envahi, le terrain a été envahi, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. C'est-à-dire, il fallait qu'il recommence tout à zéro. Frères et sœurs, nous sommes dans la dernière heure, et dans cette dernière heure, quelque chose qui nous guette, c'est le sommeil. La parole de Dieu nous dit de nous réveiller, c'est le moment, c'est l'heure de nous réveiller. Et il nous dit pourquoi il faut que nous nous réveillons. Parce que nous sommes rentrés justement dans cette dernière heure. Et je viens de vous le donner, la paresse, et la dernière lecture que je vais faire avec vous, c'est dans Luc, chapitre 8. C'est bien ça. Après j'arrête. La paresse nous fait tomber dans l'assoupissement. Luc, chapitre 8. Luc chapitre 8. Et à partir du verset, j'ai mis verset 16, je crois. Vous me direz si c'est ça, puisque vous êtes avec moi. Vous ne me laissez pas tout seul. Voilà, c'est bien ça. Et là, c'est dans la parabole du semeur. Ça reste toujours par rapport au cœur, les ronces. Voilà, on est toujours sur ce terrain-là. Hein, d'accord, au verset 7, voilà. Mais c'est le verset 16 qui nous intéresse. « Personne, dit Jésus, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. » J'ai réfléchi, Luc, d'autres passages, dit « sous un boisseau ». Vous vous souvenez de ça? Mais là, il nous est parlé d'un lit. Et un lit, c'est un endroit où on dort, on se couche, on s'allonge. Et la Bible nous parle, c'est l'heure de nous réveiller. Pourquoi? Parce que nous avons basculé dans la dernière heure. Et dans cette dernière heure, pour pouvoir discerner les faux prophètes, les antichrists, toutes ces personnes qui usurpent le nom de chrétien de Jésus, il faut pouvoir être éveillé pour pouvoir les discerner. L'apôtre Jean nous dit, ils sont sortis d'où? Du milieu de nous. Certainement, on les a embrassés, on les a enlacés, mais leur vrai visage, parce qu'on n'était pas éveillé spirituellement, on n'a pas su discerner qui étaient ces gens. Mais Dieu veut que nous nous réveillons pour que nous puissions discerner qui, avec qui nous avons affaire. Vous comprenez cela? Bon. Alors, où j'en étais? Je reviens. Il dit, un lit, je disais, c'est pas il, c'est moi qui parlais, je parle pas à la troisième personne. Il dit, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Parce que si tu allumes une lampe et tu la mets sous ton lit où tu dors, tu vas prendre feu. Et le lit, tu ne peux pas allumer une lampe, c'est-à-dire une bougie, je prends un exemple comme ça, c'est le feu, et tu la mets sous le lit. Ça va mettre le feu. Mais quand on parle de lit, je réfléchissais, je me disais, c'est vrai, le paresseux, il est couché, la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 6, verset 9. Il nous dit, le paresseux dit ceci, « Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?» L'Écriture interpelle l'enfant de Dieu, il dit, « Mais jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu endormi? Jusqu'à quand? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Puisque nous basculons dans la dernière heure, et c'est le moment de se réveiller, dit l'apôtre. Et Jésus dit, tu ne peux pas allumer une lampe et la mettre sous le lit. Mais quand tu l'allumes, il dit, mais il la met, où ça? Sur un chandelier. Afin que ceux qui entrent voient la lumière. Je ferme la boucle par rapport au début. Vous vous souvenez? L'Église est une lumière pour le monde et le sel pour la terre. Et dans l'Apocalypse, je crois que je l'avais noté, si quelqu'un a le verset, puisque ça me vient, il dit, le Seigneur dit, je viendrai et j'ôterai le chandelier. Vous vous souvenez de ça? Quelqu'un peut me donner le verset? Après, je m'arrête. Bon, j'aurais dû le chercher, mais ça me vient. Mais je le dis de tête et vous le... Voilà, ce chandelier-là, le Seigneur dit, s'il vient, il peut enlever le chandelier. Mais on dit, Seigneur, non, n'enlève pas, ne te retire pas. Ne nous retire pas ton bon esprit, disait David. Mais fais-nous grâce. Parce que une pièce qui est allumée, qui est éclairée, c'est une pièce où on peut voir où on met les pieds, n'est-ce pas? Mais une pièce qui est dans les ténèbres, c'est une pièce où on va marcher à tâtons. Mais Dieu, Seigneur Jésus, veut que le chandelier, la lumière que nous sommes, soit mise en évidence plus que jamais aujourd'hui, Le monde doit voir l'Église briller. Nous devons briller comme une lumière pour ce monde et nous devons être le sel de la terre. Et je dis Amen. Voilà. Je le trouverai si ça me revient le verset. Et comme Jésus dit, je viendrai et j'ôterai le chandelier. Ah, voilà, ça commence à parler. Apocalypse chapitre 2. Merci, merci mes bien-aimés. Verset 5. Merci. 2, verset 5. Voilà, je prends à partir du verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ensuite il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repens. Je dis Amen maintenant. Merci mes bien-aimés, je vais prier un instant.